rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre belle région. Et pendant tout ce mois de mars, nous sommes accompagnés par Monseigneur Gardès. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes donc évêque d'Auch. Et pendant ce mois, nous évoquons avec vous le dialogue interreligieux. Nous nous appuyons pour un peu cimenter nos émissions sur la déclaration de Vatican II Nostra Aetate. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet du dialogue avec les musulmans et nous allons coller un petit peu à une actualité plus récente parce que la déclaration a 54 ans. Et il y a deux mois, le pape François est allé aux Émirats Arabes Unis. C'est la première fois qu'un pape se rendait dans la péninsule arabe.
Oui, c'était une grande première.
C'est une grande première, absolument. Mmh. Pourquoi si tard? Pourquoi est-ce que ce premier voyage intervient si tard dans l'histoire de l'Église, alors?
Je crois qu'il y a trois éléments qui jouent. Le premier élément, c'est le contexte mondial. Puisqu'on a un pape François qui est très attaché à être attentif à tout ce qui se passe dans le monde et à œuvrer tant faire se peut pour travailler pour la paix. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelqu'un qui a bien perçu la place de l'islam actuellement. Et il y a souvent de la difficulté à ne pas faire l'assimilation entre musulmans, ça va même plus loin, je dirais arabe égale musulman égale terroriste.
Oui.
Épouvantable d'entendre ça.
Oui, oui.
Déjà, au niveau d'arabes, tous nos frères arabes chrétiens, alors à ce moment-là, il dit alors nous, on n'existe pas. Au niveau du monde arabe, il n'y a que des musulmans. Et puis au niveau des musulmans, eh bien, les quelques-uns qui sont embarqués dans les aventures de terrorisme pour la destruction et par haine, eh bien, c'est une réalité qui reste dénoncée par la plupart des imams de France. On le sait très très bien. Donc il faut qu'on soit attentif aux différentes déclarations. Donc pour marquer cette dimension spirituelle et humaine qu'il y a chez bien des musulmans, le pape a tenu précisément à aller dans cet espace des Émirats qui est pleinement identifié comme étant un lieu de l'argent et du coup de puissance sur le plan politique mondial.
De l'argent, de puissance et puis de règne pour le coup politique de l'islam.
Donc c'est le troisième élément.
Oui,
c'est au niveau de la dimension politique. Oui. sur le plan mondial.
Oui.
Donc là, il s'appelle François, le pape.
Oui.
Or, cette rencontre qui a lieu à Abu Dhabi, c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion du 800e anniversaire de la rencontre de Saint François d'Assise avec le sultan Malik. Et dans ce contexte-là, il y avait la volonté de pouvoir non seulement les rencontrer, mais lui qui s'appelle François, c'était aussi de faire mémoire de ce 800e anniversaire et avec une main tendue pour essayer d'engager un dialogue et d'œuvrer pour la paix.
Alors c'est beaucoup plus qu'une main tendue, puisqu'il y a quand même eu une déclaration.
Oui, mais quand je dis une main tendue, c'est-à-dire qu'on se dit bonjour.
Oui,
on ne se regarde pas en chien de faïence, il n'y a pas un soupçon. Il y a la confiance.
Il y a la confiance.
Et il y a même l'amitié qui est là. Et ça me paraît très, très important.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agissait pas seulement d'une visite qu'on peut qualifier de protocolaire, etc. Il y a eu des gestes extrêmement forts.
Oui, il y a eu une déclaration.
Donc voilà, cette déclaration, on va y revenir. Et puis cette messe en plein air qui a quand même réuni 170 000 fidèles.
Oui, exact. Oui.
Et Dieu sait que la pratique de la foi catholique sur cette péninsule est délicate. Bon, je ne parle pas du pays voisin où elle est carrément interdite, mais ici, c'est vrai qu'elle est tolérée. C'est quand même une de la part de ce gouvernement, une manifestation d'ouverture et de tolérance qu'il faut noter.
Hein. Oui, oui.
Bon. Donc cette déclaration, rédigée en commun, donc elle a été rédigée à quatre mains, avec le grand imam d'Al-Azhar. Et vous pouvez peut-être nous dire qui est cette personne et quelle est en fait sa légitimité dans le monde musulman.
Ben, c'est une personne qui est reconnue sur le plan de la connaissance universitaire, ça c'est très très important, et puis c'est dans une université qui a toujours eu la dimension d'ouverture depuis longtemps. Donc ces deux éléments font qu'il ne suffit pas d'avoir une dimension d'ouverture, de volonté, d'amitié, si ce n'est pas appuyé par des arguments et par des éléments composant du texte, on le voit très bien, mais qui rejoignent structurellement ce qu'est notre humanité, tout du moins ce qu'il est appelé à être, si ce n'est pas encore le cas. Et dans la dimension de fraternité, et comme vous venez très bien de le dire aussi, de l'ouverture. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette dimension d'ouverture. Certainement, vous avez vu sur Internet, à la télévision, des images, et on sent bien que la rencontre est une rencontre d'amis,
oui,
et de frères, et non pas simplement une rencontre protocolaire,
diplomatique,
où on se serre la main en regardant le photographe pour faire la photo protocolaire. Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe.
Alors le texte est d'une très grande force, et notamment, je vais reprendre une de ces phrases, « Il n'existe pas de violence qui puisse être justifiée religieusement », c'est une des phrases les plus fortes. Effectivement, on voit que ce texte est traversé par cette volonté marquée de dire que la violence n'a pas lieu d'être au sein des religions. Peut-être que vous pouvez... est-ce qu'il faut retenir ce texte comme une forme d'alliance de toutes les religions contre la violence ?
Je crois que toute dimension spirituelle de l'homme contribue à reconnaître l'autre comme un frère, donc à tuer en nous la violence destructrice. Et en même temps, encore ces jours, dans les célébrations eucharistiques de ces jours, si vous lisez les textes du jour, on avait le récit dans le livre de la Genèse, là au chapitre 6, là, avec Caïn et Abel. Et c'est un texte d'ailleurs qui a de nombreux commentaires rabbiniques, mais qui est absolument intéressant à étudier de près, parce que ça rejoint quelque chose qui n'est pas de l'ordre uniquement historique. Ça a commencé forcément par la symbolique Caïn et Abel. Donc ça a commencé avec Caïn et Abel, mais c'est quelque chose qui est structurel de l'homme, qui a une capacité de haine et de vouloir détruire l'autre parce que l'autre me dérange, parce que l'autre vient me troubler, parce que l'autre est une menace. Et à ce moment-là, lorsque ça devient systématique sur le plan du comportement humain, on tombe dans un syndrome de type paranoïaque. Il n'y a plus de société possible si l'autre est toujours celui perçu comme qui va m'agresser, qui va m'agresser et qui va me détruire. Donc dans ce contexte-là, c'est très très important de réinstaurer la capacité relationnelle qui est faite de confiance, d'écoute et d'amour. Non seulement d'écoute, mais d'amour.
Il faut lire cette déclaration. Elle est passionnante, elle est très riche, elle est relativement longue, mais elle est très simple à lire et elle est vraiment pleine de ce grand appel à une fraternité universelle qui n'est pas des 20 mots, parce qu'elle s'appuie vraiment sur des éléments très concrets.
C'est la phrase que vous venez de prononcer qui synthétise tout le texte. Véritablement, c'est une déclaration pour la fraternité universelle.
Il n'existe pas de violence qui puisse être justifiée religieusement.
Il y a 30 ans, j'entendais dans une conférence le professeur Hans Küng, il y a 30 ans, et qui disait « La paix ne sera pas possible dans le monde sans la rencontre fraternelle des religions. » Il y a 30 ans, il disait ça. Le professeur Hans Küng. Alors, j'ai vu que l'événement, effectivement, a pu avoir lieu de la présence du pape François et accueilli, et très bien accueilli dans les Émirats, pour la célébration finale, il y a des musulmans qui sont venus, pour la célébration finale, très très important à savoir, si ça pouvait contribuer pour les uns et pour les autres à chasser toute peur de la rencontre de musulmans, je dirais que non seulement le voyage du pape a été très intéressant par la déclaration commune, mais très intéressant pour nous, et puis pour le monde, parce qu'on est capable de se rencontrer, malgré des craintes que l'on peut avoir, dans la confiance.
Il y a 30 ans, il y avait aussi, pas très loin, les rencontres d'Assise. la première à l'initiative de Saint Jean-Paul II. Est-ce que vous en gardez un souvenir personnel de cette première rencontre à l'Assise ?
Ah oui, oui. Surtout, j'étais déjà engagé dans un travail interreligieux. Donc la rencontre d'Assise, ça a été une explosion de joie. Dans un respect infini. Vous pouvez retrouver les textes, vous retrouvez maintenant avec Internet, on a une bibliothèque absolument magnifique, mais dans le respect. C'est-à-dire que le temps qui a été le temps de prière, personne n'a voulu prendre le pas sur l'autre. Mmh. C'est-à-dire que dans chacune des religions, il y a la prière qui est exprimée, et c'est toujours une prière pour la paix. Et pour le respect de la vie, et le respect de la vie du frère qui est là. Donc ça m'a resté très, très, très fortement, d'autant plus que ça correspondait exactement à l'année où le pape Jean-Paul II venait à Lyon, donc 1986.
Un magnifique souvenir. Quoi.
Il l'avait annoncé, oui. Bien sûr, donc, à cette rencontre qui aurait lieu.
Eh bien, on peut inviter nos auditeurs peut-être à aller un petit peu fouiller sur Internet pour essayer de retrouver ces petites madeleines de la première rencontre d'Assise.
Magnifique.
Très beau souvenir. Merci Monseigneur, on se retrouve la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques,